Bonjour à chacune et à chacun. Je vais laisser Jérémy mettre, voilà, il a déjà le diaporama qui va juste nous aider à garder quelques traces de la prédication. Bon, tu peux mettre le titre. Voilà, donc je vous invite ce matin à, j'avais déjà commencé il y a un certain temps, une prédication sur le livre d'Esdras, et ce matin je vous propose de faire un focus sur un moment particulier de ce livre qui va être à la fois l'arrêt et la reprise des travaux de reconstruction du temple. Récit qu'on trouve dans le livre d'Esdras, mais on verra aussi, on fera aussi un saut dans le livre d'Agé qui relate également cette période. Alors évidemment, l'objectif, ça sera de faire des relations, des transpositions également pour nous, et donc on se posera la question centrale. En quoi l'arrêt des travaux, mais aussi et surtout leur reprise, peuvent-ils être des enseignements pour nous, pour moi, aujourd'hui? Avant de lire le passage, enfin un des deux passages de base, on va faire un rapide rappel historique, si tu veux le mettre. Voilà. Le contexte historique de ce livre d'Esdras, c'est qu'en 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem donc est détruite par l'armée de Babylone et le peuple de Juda est déporté. En 539 avant Jésus-Christ, l'empire babylonien est défait par les Perses, ce qui va avoir la conséquence heureuse du retour d'exil de certains juifs. On avait vu que ce n'était pas tous les juifs, et loin de là, qui étaient revenus, mais le retour d'exil de certains juifs à partir de 538 avant Jésus-Christ. Débute alors la reconstruction du temple. Et j'ai mis petit point. Parce que, évidemment, voilà, le lien qu'on va faire, début de la reconstruction, ça avait été vraiment une priorité à l'époque, oui, mais ces travaux vont s'interrompre. Donc, je vous invite à ouvrir ou à lire avec moi le premier récit qui se trouve dans le livre d'Esdras. Au chapitre 4, nous allons lire les versets 1 à 5 et le verset 24. Parce que la particularité de ce chapitre 4 du livre d'Esdras, c'est que c'est pas un récit chronologique. Les versets 1 à 5 et le verset 24, qui en est la suite, se situent largement chronologiquement avant les versets 6 à 23, qui historiquement sont bien après. Donc, si on lit le chapitre 4 comme ça, on se dit, on ne comprend pas trop, qu'est-ce que le règne de Xerxès au verset 6 vient faire là. Donc, on va laisser de côté, évidemment, cette période qui est ultérieure. Donc, Esdras au chapitre 4, le verset 1 à 5 et le verset 24. Je vais les lire. Les ennemis de Juda et de Benjamin, vous voyez, on commence tout de suite par les ennemis. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs des groupes familiaux pour leur dire « Nous allons vous aider à reconstruire ce temple, car nous invoquons le même Dieu que vous et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a déportés ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël leur répondirent. Il nous appartient à nous, et pas à vous, de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous seuls devons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse. Alors, les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs de Perse. Et donc là, on fait un bond en avant jusqu'au verset 24 du même chapitre 4, où nous apprenons quoi ? Verset 24. « Dès lors, les travaux de restauration du temple de Dieu à Jérusalem furent interrompus. Cette interruption, on y reviendra, se prolongea jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse, qui va nous permettre de savoir pendant combien de temps il y a eu interruption de ces travaux. Donc, un constat, l'arrêt des travaux. Donc, historiquement, ces travaux se sont arrêtés, on l'a appris par cette lecture, durant le règne de Cyrus. On pense que c'est vers 535 avant Jésus-Christ. Hein, rappelez-vous, tout à l'heure, c'est 538 avant Jésus-Christ qu'avaient commencé les travaux. Donc on pense que c'est vers 535 avant Jésus-Christ que les travaux se sont arrêtés. Et là, il nous est dit, jusqu'à la deuxième année du règne de Darius, qui se situe en 520 avant Jésus-Christ. Donc voilà, petit calcul, 535 avant Jésus-Christ, jusqu'à 520, ça fait 15 ans. Voilà, c'est juste pour voir si vous étiez réveillés. Voilà. Les enfants auraient été encore là, on aurait vérifié leurs compétences à faire une petite soustraction. Mais en plus, quand on va dans l'autre sens du calendrier, voilà, vers l'année zéro, hein, ça peut un peu compliquer la chose. Bon. Donc, 15 années d'interruption. Ce matin, on va se poser donc deux questions. Pourquoi cette interruption de ces travaux de reconstruction du temple de Jérusalem? Et deuxième question, quelle solution? Ou si vous voulez, quel remède pour reprendre ces travaux? Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, ce fut un temps, évidemment, loin de nous. Mais évidemment, l'intérêt de ce partage ce matin, c'est de se poser la question pour nous aussi. Évidemment, nous ne sommes pas engagés dans la construction d'un temple, ni même là, d'un bâtiment au sens physique, mais le Nouveau Testament nous dit que les chrétiens, les chrétiennes, sont le temple du Seigneur. Si ici, il s'agit de l'arrêt de la construction du temple, un tel arrêt peut aussi concerner notre église, ou je dirais même nos églises, parce qu'on a peut-être des visiteurs parmi nous ce matin. Ça peut concerner notre église, nos églises, voire également nos vies personnelles. Et l'église, j'allais dire, n'est que le reflet d'hommes et de femmes. Donc, en général, quand il y a un arrêt au niveau de l'église, c'est qu'il y a certainement un grand nombre d'arrêts au niveau des vies personnelles de ceux qui forment justement cette église. Donc là aussi, on peut se poser la question, quelle cause, quelle solution? Et je pense qu'on peut faire effectivement un parallèle entre certaines choses qu'on peut relever dans le récit que nous voulons de lire et dans celui que nous allons lire dans le livre d'Agé et peut-être dans les situations contemporaines que nous pouvons vivre. Donc première question, tu peux avancer Jérémy. Voilà, donc le constat, on l'a fait, et donc la première question, pourquoi cet arrêt? Alors on va voir que le récit qu'on a lu là dans Esdras 4, les versets 1 à 5, vont nous relater deux causes externes possibles. Le récit nous dit si... deux causes ont fonctionné ou pas. On va commencer par la première. Donc cause externe ou, on va voir après dans le livre d'Agé, peut-être cause interne également. La première raison possible qui nous est relatée dans le livre d'Esdras au chapitre 4, c'est ce que j'ai appelé le polythéisme. Bon, quelques éléments d'explication. Qu'est-ce qui se passe ici au chapitre 4? Je vous l'ai dit, premier verset, c'est pas innocent. L'auteur nous dit les ennemis de Juda et de Benjamin. Ils apprennent quoi? Ils apprennent que les Juifs sont en train de reconstruire le temple de l'Éternel. Et ça ne leur plaît absolument pas. Sauf que, grande subtilité, ils vont s'y prendre comment? Ils ne vont pas faire du rentre-dedans. Ils vont dire, ouais, ce que vous faites, c'est pas normal. Arrêtez tout de suite vos travaux. Au contraire, ils se présentent en disant quoi? Nous allons vous aider à reconstruire ce temple. Oh, quelle merveilleuse initiative! Bien mon œil. Pourquoi? Parce que, bon, déjà le terme ennemi, mais ça, c'est l'auteur qui nous le redate. Hein. Pour nous, lecteurs, plante clairement le décor, mais mettons-nous à la place de Zorobabel, de Josué et des deux autres chefs de groupe d'Israël, ils voient arriver ces représentants qui, encore une fois, leur disent « On se propose de vous aider. » Sauf que ceux qui font cette offre de service viennent de peuples qui rendaient un culte à leur Dieu et qui avaient ajouté le culte de l'Éternel à leur pratique. Donc, si vous voulez, une sorte de mixage des pratiques à la fois païennes et de culte au vrai Dieu. Et là, on voit bien qu'il y a problème. Pour arrêter l'œuvre de Dieu, n'y a-t-il pas aujourd'hui aussi de telles offensives? Alors, vous pourrez les décliner peut-être aux situations qui sont les vôtres, je donnerai que quelques pistes qui sont forcément limitatives. Pour arrêter l'œuvre de Dieu, je vais me situer à deux niveaux. Niveau Église, mais aussi niveau personnel. Pour arrêter l'œuvre de Dieu, n'y a-t-il pas aujourd'hui certaines offensives? Elles ne sont d'ailleurs peut-être pas si récentes que ça. Elles peuvent se situer à un niveau doctrinal. Quand on voit certains courants de pensée, soi-disant chrétiens, qui remettent complètement en cause la création, je ne suis pas en train de dire voilà, comment s'est faite la création, on ne va pas rentrer dans ce débat-là que je suis incapable d'ailleurs de soutenir, il peut y avoir différents courants d'explications, mais des théories libérales qui nie que Dieu est à l'origine de la création, ou qui, ça peut nous surprendre, nie la résurrection de Jésus. Écoutez, enfin là, on peut dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, c'est enseigné à certains endroits. Des dérives également au niveau de la moralité. Bien évidemment, le rôle d'une église et la nôtre aussi, et d'accueillir tout le monde, et d'accueillir toute personne, peu importe son origine, je ne vais pas décliner, mais c'est d'accueillir tout le monde. Mais pour autant, peut-on accepter tout mode de pensée, et notamment au niveau de la moralité? Si c'est tout accepté, il y a des chapitres entiers de la parole de Dieu qu'il va falloir arracher et enlever, parce que clairement, ça ne cadre pas. Une autre offensive, c'est peut-être aussi ce que j'appelle le mauvais œcuménisme. Alors, si je dis qu'il y a un mauvais, c'est qu'il y aurait un bon. Bah, l'œcuménisme, le bon, qui consiste à rassembler des frères et sœurs qui ont un même fondement biblique, même s'il y a quelques divergences. Hein, voilà. Mais si on est d'accord sur l'essentiel, si on est d'accord sur l'essentiel, on peut œuvrer ensemble dans le cadre de certaines choses qu'on peut faire ensemble, tout en ayant peut-être chacun sa dénomination de courant évangélique. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Mais le mauvais œcuménisme, pour moi, c'est clairement, et on se rapproche peut-être là du texte de Esdras, on dit « bon, bah, tu sais, moi, ok, ma religion, elle est un peu différente, bon, pourtant, on a quand même quelques points communs, mettons-nous ensemble, et ça peut même donner l'occasion d'une grande réunion de prière, bon, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a tout ce que vous voulez, voilà. » Alors, je pense que ça, au regard de la parole de Dieu, c'est pas possible. Alors que je me fasse pas mal comprendre, dans certaines occasions, parce qu'il s'agit pas, voilà, de faire des il est bon, peut-être même au niveau des autorités publiques, de montrer qu'ensemble, on œuvre, par exemple, dans une même ville, pour la paix de cette ville. Voilà, si... moi, je pense notamment, lorsqu'il y a eu les attentats, hein, au niveau de ma ville de Longjumeau, ça me paraissait évident et ça me paraissait normal que l'autorité d'une ville, en l'occurrence Madame le maire, reçoive les représentants des différents cultes, et là, des différents cultes, pour veiller à ce que, voilà, il y ait une paix au niveau des différents représentants et des différentes communautés qu'ils représentent. Mais de là à aller faire quelque chose du type « on va faire une réunion de prière », enfin ça c'est pas une autorité locale qui va bien sûr le proposer, mais mettons-nous donc ensemble, voilà, le pasteur de l'église évangélique de Longjumeau va prier avec le pasteur, non pas avec le pasteur, avec le représentant du culte musulman et d'autres. Là, clairement, ça ne me paraît pas possible. Et pourtant, aujourd'hui, dire non à de telles offres de services est plutôt parfois mal perçu. On a parlé de l'Église, mais peut-être que l'offensive se situe aussi au niveau de nos vies personnelles. N'avons-nous pas, n'ai-je pas, moi, parfois, dans ma vie, des faux dieux dans ma vie qui font ou qui pourraient faire qu'on ne voit plus vraiment la différence entre le vrai chrétien, la vraie chrétienne que je devrais être et les non-chrétiens. Peut-être y a-t-il dans ma vie de tels faux dieux, de telles offensives qui font que j'ai perdu de vue l'essentiel et que peut-être que je suis en danger d'accepter certaines offres de services qui, en fait, si je regarde un peu, n'ont comme seul objectif que de me détourner du vrai chemin de Dieu. La bonne nouvelle, on va y revenir tout à l'heure ici, c'est que dans le livre d'Esdras, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il est dit, hein, vous voyez, Josué, Zorobabel, ils ont dit, on va y revenir, non. Ça appartient à nous de le faire, pas à vous. Alors la première offensive n'a pas fonctionné. Deuxième offensive, le découragement et l'intimidation. Dans ce texte, il nous est dit, vu que la première offensive n'a pas marché, alors les gens du pays découragèrent les Judéens et ils les effrayèrent. Alors par quels moyens ? Certainement notamment en leur disant, de toute façon, regardez, vous êtes peu nombreux. Vous avez relativement peu de moyens, c'est vrai. Ils leur font peur et on voit même au verset 5 que ses ennemis soudoient des fonctionnaires pour accuser faussement les Juifs. Et malheureusement, la conclusion du texte, verset 5, nous dit « ils y parvinrent ». Donc ça a fonctionné. Pour nous, peut-être sommes-nous parfois également en face de ces mêmes offensives, à savoir des personnes, mais parfois même nous-mêmes, qui avons tendance à nous décourager, à être intimidés, à avoir peur. à se dire que finalement, c'est vrai, on n'est pas si nombreux que ça. Même quand je regarde devant moi, je me dis, voilà, le dimanche, du moins le dimanche, l'église est bien remplie. Mais finalement, on n'est pas si nombreux que ça. On n'a pas autant, aussi, autant de moyens que parfois on le voudrait. Et puis n'avons-nous donc pas, en tant qu'Église, mais peut-être dans nos vies personnelles, et là chacun se connaît mieux que moi-même, de savoir qu'est-ce qui dans ma vie peut me décourager, qu'est-ce qui peut m'intimider, qu'est-ce qui peut me faire peur au point où on baisse les bras, on se dit, bah, finalement, ça vaut vraiment, ouais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer l'œuvre, de continuer l'œuvre du Seigneur, mais de continuer le chemin que le Seigneur nous amène personnellement à emprunter. Sommes-nous nous-mêmes pas également menacés de cet arrêt, arrêt non pas d'une construction, mais arrêt dans le chemin que le Seigneur nous a permis un jour d'emprunter, de démarrer. Donc on a vu deux causes externes. La première qui n'a pas fonctionné, la deuxième qui a fonctionné. Mais il y en a une troisième. Elle n'est pas relatée dans le livre d'Esdras, mais elle est relatée par un prophète qui est le prophète Agée. Je vous propose de lire dans le premier chapitre du prophète Agée les 11 premiers versets. Et là, on va apprendre que cette cause externe du découragement, de l'intimidation, qui était vraie, hein, parce que le texte nous dit que malheureusement les Juifs se sont laissés décourager, ce n'est pas la seule cause qui fait qu'on a arrêté les travaux, du moins qu'on ne les a pas repris pendant 15 ans. Agée au chapitre 1. Je commence au verset 1 qui va nous montrer qu'on se situe bien à la même époque. La deuxième année du règne du roi Darius. Souvenez-vous, c'était jusqu'à là que les travaux s'étaient arrêtés. La deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du sixième mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yétosadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agée. Voici les termes de ce message. Et vous allez voir que le contenu, il est sévère. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple, les Juifs, prétendent « Le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être bâti. » Autrement dit, ce n'est pas le moment de reprendre les travaux. Alors, la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agée. Voilà ce qu'il leur dit. « Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine ? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, sans être assasiés. » Et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être échauffé, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Il ne reste pas grand-chose, rien du tout. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Ça revient, vous voyez, réfléchissez. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'y serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait ? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Voilà, je vais jusqu'au verset 11, pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail et sur tout le fruit de vos travaux. Les Judéens étaient certes, je l'ai dit tout à l'heure, peu nombreux. Et c'est vrai, connaissaient des difficultés économiques. Mais âgés leur reproche leur préoccupation, qui semble très éloignée de celle de l'Éternel. En effet, ils disent que ce n'est pas le temps de reprendre les travaux. La vraie raison, elle est où ? C'est pas, voilà, bon, parfois on peut discuter, est-ce que c'est le moment de faire ça ou pas ? Eux disent non, non, ce n'est pas le moment. Et parce qu'au fond, ils ne veulent pas. Parce que dans leur vie, ils ont d'autres priorités. Et on voit bien que le prophète âgé, bah, qu'est-ce qu'il leur reproche ? Il reproche à ces Judéens qu'en fait, ils cherchent leur bonheur dans l'individualisme, dans la sécurité toute humaine, dans le confort. Il leur dit, bah oui, vous habitez à votre aise des maisons lambrissées, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un appartement, une maison, l'appartement, une belle maison, mais on voit que leur priorité, c'était ça. C'était plus l'œuvre du Seigneur. On peut se poser la question pour nos propres vies. Où sont mes priorités ? Où sont les priorités d'une Église ? Sachant que, encore une fois, l'Église ne sera que le reflet des personnes qui la composent. N'y a-t-il pas dans ma vie, n'y a-t-il pas dans nos vies, parfois, de fausses priorités, ou des priorités mal placées, mal ordonnées, qui font que petit à petit, peut-être sans m'en rendre vraiment compte, je passe à côté de l'essentiel. Et je ne suis plus dans le vrai chemin que le Seigneur avait prévu pour moi. En fait, si je suis à l'arrêt, parfois personnellement, ou si on est à l'arrêt collectivement, sur certains plans, bah, ce n'est que la conséquence, ou en partie la conséquence, de ces fausses priorités. Alors une fois que le constat est fait, bah, ça serait bien dommage d'en rester au constat ou au diagnostic. Quelles sont les solutions ? J'en ai dénombré 4, mais il y en a certainement d'autres. La première des solutions, on l'a vu tout à l'heure dans le livre d'Esdras au chapitre 4, c'est clairement la fermeté. On a là un bon exemple de responsable du peuple de Dieu qui, face à cette offre de service dont on a compris que son unique but était de faire arrêter l'œuvre de Dieu, ils sont d'une extrême fermeté. Ils disent, il nous appartient à nous et pas à vous de bâtir un temple pour notre Dieu. Je crois qu'il y a des situations où il faut savoir dire non. Bon. Quand on est parent, on sait très bien que parfois c'est difficile déjà de dire non à ses petits, à ses enfants. C'est beaucoup plus facile de dire oui que de dire non. Dans la vie d'une église aussi, ou peut-être par rapport à certaines alliances qu'on nous propose, bah c'est plus difficile de dire non que de dire oui. Mais d'un point de vue doctrinal, d'un point de vue engagement personnel dans nos vies, on l'a compris, nous pouvons être tentés par une telle ouverture, bon, je ne suis pas quelqu'un de fermé par nature, par une telle ouverture que, on en perd son âme. Hein. Voilà, on perd de vue l'essentiel. Donc, il y a des situations où il faut savoir discerner et pas dire oui à tout courant de pensée, à toute offre de service ou à toute proposition, peut-être aussi que dans nos vies, on peut nous faire, mais avoir le courage parfois d'être ferme, parce que sinon, on va passer à côté de l'essentiel. Deuxième solution, j'ai appelé ça dépasser les circonstances. C'est vrai, là je parle des causes externes, il y a des causes externes dans nos vies qui nous échappent. Des choses qui dans nos vies peuvent nous arrêter, c'est vrai. Ça peut être parfois une déception. Déception sentimentale, déception même d'un frère, d'une sœur en Christ qui nous a profondément déçus. Et où on pourrait dire, bah oui, vous voyez bien, même si lui et elle, moi j'ai d'autant plus de raisons d'arrêter aussi, de prendre un autre chemin. Il y a des causes externes, peut-être la maladie aussi, qui peut nous arrêter dans notre vie. Les causes externes, du moins certaines, nous échappent. On ne peut pas agir sur certaines circonstances de nos vies. Je dirais malheureusement, elles arrivent. Qu'on le veuille parfois, qu'on ne le veuille pas, justement. Mais si on ne peut pas agir sur les circonstances, on peut décider de notre manière d'y réagir. Je reprends la phrase, c'est une idée clé. Si on ne peut pas agir sur les circonstances, parce que ça nous dépasse, et ce n'est pas forcément notre ressort, nous pouvons décider de notre manière d'y réagir. Ce qui veut dire qu'il y a des circonstances où ce n'est pas parce que ça nous arrive que forcément ça légitime le fait que dire « moi aussi, ça, c'est normal que je m'arrête dans ma vie. » Voilà. Mais ça pose la question comment j'y réagis. Pour justement ne pas m'arrêter. Ou peut-être parce que, ou si je me suis arrêté, reprendre la marche avec le Seigneur. Troisième solution, savoir reprendre, et c'est là l'essentiel, la marche en avant en fixant les bonnes priorités. Et je vous invite à revenir au texte, à ces deux textes de Agée 1 et de Esdras, on ira au chapitre 5, où nous avons un exemple de finalement de ce que nous devons faire individuellement ou collectivement si dans telle ou telle situation on se dit oui, je me suis arrêté dans ma vie et il est temps de reprendre la marche en avant. Agée 1, après les 11 premiers versets, qui sont quand même sévères, voilà la réaction du peuple et de ses responsables. Ils n'ont pas commencé à dire « Ouais, mais quand même, ce que tu nous dis, Agé, c'est un peu exagéré. Là, quand même, tu vas un peu fort. T'es bien sûr que Dieu... » Non. Voilà comment ils réagissent. Alors, Zorobabel, verset 12 de Agé 1, « Fils de Sheltiel, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple... » Vous voyez, il n'y a pas que les responsables. Tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils écoutèrent les paroles du prophète Agée que l'Éternel, leur Dieu, leur avait envoyé et le peuple révéra l'Éternel. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils écoutent. Je ne sais pas, nous, où on en est. C'est vrai qu'on peut, lire, on peut parfois être présent, enfin, je parle pour moi aussi, dans certains endroits, mais est-ce qu'on est vraiment à l'écoute? C'est le point de départ. En tout cas, il nous est dit, eux, ils écoutèrent. Verset 13. Alors Agée, le messager de l'Éternel, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare. Et verset 14. L'Éternel anima d'un nouveau zèle, voilà, l'Éternel anima d'un nouveau zèle, c'est, on reprend la marche en avant. Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, vous voyez, si c'est souligné, c'est qu'on voit bien que d'un côté, il y a, on va dire, les responsables du peuple d'Israël, mais il y a cette expression « et tout le reste du peuple ». Cette marche en avant, ou cette reprise de la marche, elle n'est pas seulement l'affaire des responsables, elle est aussi l'affaire du reste du peuple. Je pourrais aussi le tourner dans l'autre sens. Elle n'est pas seulement le rôle, la responsabilité du reste du peuple, elle est aussi la responsabilité de ses chefs, de ceux qui sont à la tête du peuple. Les deux sont essentiels. Je continue, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu. Le 24e jour, c'est précis, vous voyez, le 24e jour du 6e mois de la 2e année du règne de Darius. C'est pas, on a écouté, et puis on verra bien si, bon, voilà, on verra l'avenir, ok, d'accord, j'ai compris. Mais on voit que écoute rime là avec décision. Et la décision, elle est marquée. Peut-être que c'est bien dans nos vies, parfois, de marquer nos décisions, de les noter, même de les écrire, et de se rappeler que tel jour, à tel moment, j'ai décidé, alors, effectivement, peut-être d'accepter le Seigneur dans ma vie, mais peut-être aussi décider de reprendre la marche en avant, de me refixer les bonnes priorités si je les avais perdues de vue. J'arrive vers la fin. On retourne un petit moment dans le livre d'Esdras. C'est la même époque. Vous allez voir, c'est le même moment. Esdras, début du chapitre 5. Il nous est question nouveau du prophète Agé. Ça va être plus condensé que dans le livre de Agé. Le prophète Agé, verset 1. Et le prophète Zacharie, petit-fils d'Ido, s'adressèrent aux Juifs établis en Juda et à Jérusalem de la part du Dieu d'Israël qui était en eux. On l'a vu de manière plus longue dans le livre d'Agé. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yotsak, se mirent au travail et reprirent la reconstruction du temple de Dieu à Jérusalem avec l'assistance des prophètes de Dieu. Et quel résultat ? On tourne la page au chapitre 6 du livre d'Esdras au verset 15, Esdras 6, 15. Ça va aussi être très précis. Le temple fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du règne de l'empereur Darius. En fait, là, il s'agit de février-mars, je crois, hein, dans notre calendrier. Et il est dit de la 6e année du règne de l'empereur Darius, donc on est en 516 avant Jésus-Christ que les travaux sont terminés. Alors bon, peu importe la durée, mais les travaux ont repris, pas juste un peu et puis après de nouveau on se laisse aller, mais on voit que l'œuvre est terminée en gros 3-4 années après. Je terminerai par une dernière lecture, avant qu'ensuite on passe à la scène, un peu une lecture de conclusion, et tu peux noter effectivement le quatrième point, regarder au Seigneur. On va lire dans Hébreux au chapitre 12, les versets 1 à 3. Hébreux 12, versets 1 à 3. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement, de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Je m'arrête juste un peu. Effectivement, je peux me poser la question pour moi-même. Qu'est-ce qui, dans ma vie, peut m'empêcher de courir, d'avancer, et dont il faudrait peut-être que je me débarrasse, un fardeau, il est même dit là un péché qui me cerne si facilement. Et on sait tous que si on est lourdement chargé, on avance moins rapidement que si on se décharge. Verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus. C'est là la solution. Qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservé. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, ça fera le lien avec la scène, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Afin que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Que nous aussi ne puissions pas savoir faire face dans certaines situations, savoir ne pas nous décourager alors qu'il y a certainement dans nos propres vies, des sources de découragement. Et parfois, oui, ça nous arrive. On a envie de baisser les bras, on a envie d'arrêter notre marche. Mais puissions-nous regarder au Seigneur et si nous étions à l'arrêt, que nous puissions reprendre la marche en avant. Amen.